Jeudi dernier a été signée la convention de partenariat entre le Jeep France 2023. Le Jeep France, c'est le groupement d'intérêt public qui organise la prochaine Coupe du Monde de rugby. Et donc, cette convention a été signée avec le département de la Haute-Garonne. La Coupe du Monde de rugby, en effet, se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France, dont 9 villes différentes, dont 5 rencontres au poule, au Stadium de Toulouse. Cet événement est l'occasion de faire le point sur cette compétition que mon invité de ce jour appelle le sport national d'Occitanie. Bonjour Maxime Brossard.
Oui, bonjour.
Alors pendant 4 ans, vous étiez, je le rappelle à nos auditeurs, participants et spécialistes notamment du rugby, mais de bien d'autres sports, dans l'émission Sportez-vous bien sur Radio Présence avec Jean Sureda, que nous saluons.
Eh oui, salut Jean, si tu nous écoutes.
Même si tôt. Et puis c'est peut-être l'occasion, avant de parler de cette Coupe du Monde, de revenir sur cette victoire tendue du Stade Toulousain hier soir.
Oui, ça a été assez difficile. Un peu symptomatique du début de saison, c'est-à-dire le Stade Toulousain brille un peu moins que l'an dernier. Et ils ont un jeu un peu plus défensif, ils sont un peu plus pragmatiques qu'avant, j'ai envie de dire. Mais tant que ça paye, on peut rien leur dire, quoi. Ils ont 4 matchs, 4 victoires, donc.
Eh oui.
On peut pas critiquer pour l'instant, vraiment.
Maxime Brossard, vous êtes journaliste pour La Dépêche et aussi pour la Ligue nationale de rugby. Oui. Vous êtes passionné de sport, vous allez donc nous éclairer aujourd'hui sur ce qui fait le rugby dans notre région. Parce que, outre le département de la Haute-Garonne, la région Occitanie a aussi signé un partenariat. Oui. Elle accueillera aussi cette compétition mondiale, cette Coupe du Monde de rugby en 2023. Ce partenariat, elle l'a signé en 2019 au Japon. Et c'est un accord qui lui confère le statut de région haute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que région haute, puisqu'il y aura Toulouse qui fait partie des 9 villes qui vont accueillir la prochaine Coupe du Monde. Au Stadium de Toulouse, il y aura notamment des matchs du Japon, qui a été un peu la sensation de la dernière Coupe du Monde, un peu l'équipe révélation. Ils étaient chez eux et c'est devenu d'ailleurs le sport national au Japon.
Ah bon ?
Ouais, c'est un engouement assez exceptionnel. Et il y aura même la chance de voir les All Blacks et les Fidji. Donc c'est pas mal.
Des belles équipes.
Ouais, des belles équipes, surtout les All Blacks, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. C'est la plus grande équipe de tous les temps, donc c'est l'équivalent du Brésil au foot, quoi.
C'est ça. Est-ce qu'il y aura aussi des matchs à Montpellier ou dans d'autres ville d'Occitanie?
Non, Toulouse est la seule ville avec 5 matchs, donc voilà. Mais après, au-delà de ça, il faut dire par rapport à la convention donc qui a été signée, c'est plus un lien avec globalement avec l'ensemble du rugby, c'est-à-dire qu'en fait le but de cette convention c'est d'ancrer un peu plus le rugby dans notre territoire.
Si c'était possible, de
encore plus. et aussi d'essayer de faire que l'engouement soit encore plus fort, c'est-à-dire en essayant justement de ramener des jeunes dans le rugby. Donc je sais que par rapport à la convention qui a été signée notamment, il va y avoir des passerelles avec l'éducation nationale pour encourager les jeunes à faire du rugby dans les écoles. Il y a aussi quelque chose qui a été mis en place qui s'appelle Campus 2023. C'est un groupement, on va dire, d'apprentis. Entre 3 et 5 apprentis qui vont aller dans chaque club. Et ça se passe partout en France. Et ils sont donc embauchés par la Fédération Française de Rugby. Et ils sont donc détachés dans les clubs pour aider les clubs, justement, à gérer leur vie. C'est-à-dire, il y en a qui vont s'occuper de la communication, d'autres qui vont faire préparateur physique. Donc il y a vraiment des liens forts entre le rugby, l'éducation nationale, les universités et les jeunes pour vraiment créer un peu cette osmose et ce terreau pour faire que le rugby passe un palier supérieur dans les années à venir au niveau de l'engouement chez les jeunes.
Ah oui, une belle émulation à venir. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde de rugby, 3e événement sportif planétaire, 7000 volontaires, 600 joueurs, 48 matchs, 20 équipes. Bon, je vous passe tous ces chiffres, mais c'est vrai que c'est un grand événement et effectivement, associer la région et toutes les générations est une très bonne idée, avec évidemment un partenariat avec les différents départements des villes. Évidemment, ça va permettre de continuer la réussite de l'événement, de la stimuler.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, au niveau du nombre de joueurs, la région Occitanie donc, est la première en France avec 72 000 joueurs. 72 000 licenciés, pardon. Donc c'est on va dire donc joueurs, bénévoles, enfin tout le monde là, c'est la plus puissante, et avec 421 clubs, et surtout le palmarès quoi, qui est assez impressionnant. On en avait parlé, mais l'an dernier, on va dire que on fait carton plein l'Occitanie avec le Stade Toulousain, champion d'Europe et champion de France, Montpellier qui avait gagné donc la petite coupe d'Europe, la Challenge Cup. Et Perpignan, champion de Pro D2, donc c'est assez hallucinant. Vous avez même eu dans la division inférieure Narbonne qui est allé en finale de National, la troisième division en fait, qui est une division professionnelle. Et donc Lod qui était représenté aussi en finale. On a failli faire un quadruplé historique, donc c'est assez exceptionnel.
Ouais. Et ouais, une région Occitanie bien dynamique dans le rugby. Ouais. Et Claude Haché, qui est le directeur général de la Coupe du Monde de rugby, a même dit que l'Occitanie demeure le berceau du ballon ovale et elle est la capitale du rugby.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que l'Occitanie, quand on est en Occitanie, le rugby c'est assez incontournable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez des gens qui viennent un peu des régions différentes, ils sont souvent étonnés de voir un peu le nombre de terrains de rugby qu'il peut y avoir. Vrai. Souvent ils disent il y a beaucoup de terrains de rugby. C'est vrai que ça fait partie vraiment de l'ancrage local. On connaît tous quelqu'un qui joue au rugby. Il y a aussi ce côté histoire de famille qu'il peut y avoir avec ce sport, notamment dans les villages. C'est quelque chose qui anime la vie des villages, la vie des villes. J'ai envie de dire c'est à part, il y a un lien à part avec ce sport qui est quand même particulier, puisque c'est quand même un sport britannique qui a un ancrage
bien ancré en
France, puis surtout qui a l'ancrage britannique du rugby. C'est un ancrage à l'aristocratie, on dit que c'est le sport de la famille royale puisque c'est un sport noble, et il a un côté totalement inverse ici puisque c'est plus pour les paysans, on va dire, ou les gens modestes. Donc c'est assez étonnant le mariage qu'il y a eu.
Alors, un mariage certes, mais parfois un mariage qui vire aussi à la violence, puisque lors d'un match à Castres contre Bordeaux le 18 septembre dernier, il y a eu un dangereux plaquage qui a relancé le débat de la violence au rugby. Où est-ce qu'on en est, Maxime Brossard, de cette réflexion sur la violence au rugby?
C'est un sujet qui est récurrent, qui revient énormément, puisque le problème est que, donc pour revenir à cette fameuse action de Castres, c'est un Sud-Africain qui s'appelle, alors il porte bien son nom, il s'appelle Rino.
Ah oui.
Rino Peterse. Et donc il a fait un plaquage très dangereux sur Maxime Lucu, qui est le demi de mêlée de l'UBB, qui est sorti d'ailleurs sur blessure après. Donc par rapport à la violence, c'est la problématique du rugby, avec les commotions, les mêlées, les blessures, les plaquages. Il y a énormément de règles qui sont mises en place, notamment chez les amateurs. On n'a plus le droit de plaquer au-dessus de la ceinture. Il y a eu aussi, si vous regardez un peu les matchs maintenant, le moindre impact à la tête, même si c'est frôlé, c'est de suite c'est carton jaune ou carton rouge. Il y a tellement eu de problèmes aussi dans l'après-carrière, c'est-à-dire il y a beaucoup de joueurs qui ont des problèmes. Certains peuvent être atteints de démence, ou d'autres ont des problèmes liés aux commotions, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir Parkinson ou des choses comme ça. C'est en fait, il est en train de se passer au rugby ce qui se passait au football américain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les coups sur la tête, c'est pas l'idéal, quoi.
Et oui, ça engendrait des dégâts à long terme.
Ouais, et puis surtout, c'est-à-dire qu'avant, le niveau de préparation physique des joueurs était pas aussi élevé, quoi. Donc les joueurs étaient moins massifs, ils allaient moins vite, donc les dégâts étaient moindres. Je sais qu'il y avait une statistique qui disait que se faire plaquer par un joueur de rugby professionnel sur un terrain top 14 avec un plaquage appuyé, ça revient à se faire faucher par une voiture, on va dire, de type citadine, c'était une marque, mais comme une Twingo à 30, lancée sur vous à 30 km/h.
Oui,
donc ça fait des dégâts. Ouais.
Oui. Voilà. Et pourtant, il y a eu des règles qui ont été édictées par la World Rugby, qui est l'instance dirigeante du rugby mondial. C'était le 1er août. Elles vont être donc appliquées à tous les niveaux, a priori, de compétition en France. 5 règles pour réduire la vitesse, pour diminuer la fréquence et l'intensité des contacts. Est-ce qu'elles vont être appliquées? Est-ce qu'elles sont déjà appliquées? Et est-ce qu'elles vont rester?
Alors, elles sont appliquées dans tous les niveaux, c'est-à-dire du top 14 jusqu'au plus petit niveau en amateur. Donc, dans ces 5 règles, il y a des règles censées fluidifier le jeu, on va dire, comme le 50-22. Donc, si vous êtes dans votre moitié de terrain et que vous tapez dans les 22 mètres adverses, la touche est pour vous. Ils ont mis aussi en place le renvoi de ligne d'en but. C'était pour redonner l'avantage à l'équipe attaquante. C'est-à-dire, quand vous aplatissez dans votre en but, vous ne renvoyez pas depuis les 22, mais depuis votre ligne d'en but. Donc, c'est plus compliqué pour dégager. Ensuite, au niveau de la sécurité, celle qui, je pense, va rester justement, c'est le déblayage des membres inférieurs, c'est-à-dire que on ne doit plus faire attraper la jambe de son adversaire pour déblayer, parce qu'il y a eu énormément de ruptures de ligaments croisés, de chevilles, de genoux qui ont été détruits à cause de ce genre de technique. Pareil aussi sur, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait se lier à plusieurs. Partir du regroupement et aller percuter la défense à plusieurs pour avoir plus d'impact, ça c'est interdit maintenant.
Donc c'est un contre un.
C'est un contre un et le soutien c'est-à-dire votre partenaire qui peut venir soutenir pour déblayer, pour récupérer le ballon, il est obligé de rester sur ses appuis, c'est-à-dire il peut pas arriver de suite rapidement et plonger pour déblayer. Ce qui arrivait souvent, c'est que le joueur arrivait lancé.
Donc avec de l'élan.
Avec de l'élan et il percutait le défenseur sans ballon pour pouvoir avoir une zone de qui était propre, on va dire, pour pouvoir libérer, fluidifier le jeu. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, en fait, que ces règles...
Et ça, oui, c'est plutôt une bonne chose, ouais, parce qu'on va dire qu'il y a eu... c'est surtout aussi, en plus, par rapport à ça, c'est justement, on parlait de la jeunesse, de l'engouement, il y a beaucoup de parents qui étaient un peu réfractaires à
l'idée très inquiets.
De mettre leurs enfants dans le rugby. Le problème, c'est que, oui, souvent, en fait, il faut dire que ce qui se passe en amateur se passe pas chez les professionnels.
Heureusement.
Voilà, c'est-à-dire que le niveau, la vitesse et l'intensité de ce qui se passe chez les amateurs, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez les pros.
Ils n'ont pas le même entraînement et pas le même poids non plus.
Exactement. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter quand on est petit ou quand on est jeune. C'est moins dangereux quand même.
Bon, ben, merci de rassurer les parents qui s'interrogent peut-être encore pour inscrire leurs enfants à un club de rugby cette année. C'est vraiment le sport de contact par excellence et c'est vrai que pendant la crise sanitaire, les joueurs amateurs n'ont pas tellement pu jouer. Est-ce qu'ils reprennent maintenant à cette rentrée et dans quel état sont-ils?
Bien là, il y a eu le retour de la Fédérale 2, donc il y a 2 semaines. Le retour de la Fédérale 3, c'était ce week-end. Là, c'est, on va dire, le 5e niveau national, donc c'est du amateur de haut niveau, on va dire. Et puis tout a suivi derrière, là, c'est en train de reprendre peu doucement. En fait, ils ont eu une saison coupée donc par la pandémie, une saison où ils ont fait 5 matchs juste, et après ils ont fait que des entraînements, et là ils reprennent enfin. Ils ont un peu peur, moi je sais que j'ai eu l'entraîneur de Grenade sur Garonne qui joue en Fédéral 3, donc je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. Ils sont tous impatients, hein. Ils sont bouillants, ils ont vraiment envie de reprendre, mais il y a quand même des craintes, quoi. Ils ont peur d'être coupés dans leur élan encore une fois.
Et est-ce que le niveau s'en ressent?
C'est surtout qu'il y a une période d'adaptation qui va être nécessaire, déjà parce qu'en fait il va y avoir les fameuses règles à maîtriser.
Oui.
Et en plus au niveau de la condition physique, ça dépend. Ils ont fait énormément de conditions physiques, mais en fait rien ne remplace les sensations du match et l'engagement du match. Donc il risque quand même d'y avoir un peu de casse au niveau des premières rencontres là pour tous ces clubs là. Mais bon après ils ont tellement envie là qu'on va pas pouvoir les arrêter.
Voilà, allez, la joie de se retrouver et la joie de remettre de chausser ses crampons. Merci beaucoup Maxime Brossard d'être venu ce matin dans nos studios pour nous parler avec tant de passion de rugby dans notre région.
Et avec plaisir, merci à vous.